Je remercie beaucoup Monsieur l'abbé du Chalard pour ce congrès qui donne l'occasion de réaffirmer la vérité catholique à Rome. Et la multiplicité des intervenants de tout pays et de toute langue montre justement que c'est bien ici l'Église catholique qui réaffirme la vérité à Rome face aux erreurs conciliaires, spécialement au libéralisme et au modernisme. Et ce combat que nous faisons, tâchons de faire aussi par notre revue, Le sel de la terre. C'est l'abbé Charlard, bienvenue, nous faire quelques compliments immérités. Sur cette revue qui nous avait été demandée justement par Monseigneur Lefebvre pour combattre les erreurs conciliaires. Et dans la lettre où il nous demandait cela, il disait même de combattre les assassins de la foi qui se trouvent à Rome. À ce sujet, avant de commencer la conférence, je veux vous lire juste un message qui est arrivé ici d'un lecteur du sel de la terre qui habite en Hongrie et qui veut nous encourager pour ce congrès. Un simple rustique paysan thomiste du côté du Danube à Budapest, avec convenable respect, parle pas très bien français, vous salue et votre grand légitime effort par lequel, avec saint Thomas d'Aquin, vous et tous défendez la Rome éternelle et la vérité contre les tromperies en votre congrès du 8 au 10 décembre 1994. Par mon âme et esprit, je suis ensemble avec vous au champ de bataille sur Albano Laziale pour affronter le franc-maçonnique Castel Gandolfo. Avec fidèle relation pour méritant et mémorable Don Putti et son grand et toujours vivant cadeau pour nous et la victoire pour le notable bulletin Sissinono. Merci et triple acclamation et bravo. Nous disons à la hongroise Elgen, Elgen, Elgen. Viva, viva, viva pour le congrès et surtout à son Excellence Monseigneur Bernard Felet. Si, si, non, non, est, est, non, non. Saint Thomas, dans son commentaire de l'Écriture, nous dit « Quand nous voyons une chose être, il faut la dire telle, mais quand une chose n'est pas, il faut affirmer qu'elle n'est pas. » Les libéraux veulent bien la première partie, mais ils ne veulent pas de la seconde. Ils disent, il faut voir le positif, vous êtes toujours à vouloir condamner. Cet esprit, cette mentalité libérale est devenue la pensée officielle de l'Église conciliaire depuis le fameux discours d'ouverture du Concile par le pape Jean XXIII sur les prophètes de malheur. Lisons quelques extraits de ce discours. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Et puis un peu plus loin, disant qu'il se refusait de vouloir condamner les erreurs, il s'explique ainsi. L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent condamnées et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Certes, il ne manque pas de doctrine et d'opinions fausses, de dangers dont il faut se mettre en garde et que l'on doit écarter. Mais tout cela est si manifestement opposé au principe d'honnêteté et porte des fruits si amers qu'aujourd'hui les hommes semblent commencer à les condamner d'eux-mêmes. Non seulement le Concile s'est refusé de condamner les erreurs, mais vous savez qu'il a même été jusqu'à affirmer le droit à l'erreur par sa fameuse déclaration sur la liberté religieuse. Et à ce sujet, on peut lire, ce qui nous montre combien les ennemis de l'Église sont attentifs à ce qui se passe dans l'Église. Dans le bulletin du Centre de documentation du Grand Orient de France, donc la franc-maçonnerie de Paris. Dans le bulletin de 1964, on lit ceci. Nous nous proposons d'attirer l'attention de nos lecteurs sur les interventions d'évêques et de cardinaux qui, au cours des débats de la troisième session du Concile, ont paru le mieux manifester l'annonce d'un certain dégel de la pensée catholique. Parmi ces interventions, il citait un certain Mgr Wojtyla de Cracovie. Citation. Il faut accepter le danger de l'erreur. On n'embrasse pas la vérité sans avoir une certaine expérience de l'erreur. Il faut donc parler du droit de chercher et d'errer. Je réclame la liberté pour conquérir la vérité. Cette attitude n'est pas celle de l'Église catholique. Les grands papes, les grands pasteurs ont toujours condamné les erreurs et par là ont mis en relief la vérité. Hier, nous étions au 130e anniversaire du syllabus de Pie IX qui condamnait en 80 propositions les principales erreurs du monde moderne. Syllabus qui a été un formidable coup d'arrêt à la Révolution. Saint Pie X, en 1907, condamna 65 erreurs dans son décret Lamentabili, qui, là encore, fut un coup très dur pour le modernisme. Et les deux grands évêques que le bon Dieu nous a donnés en cette fin du XXe siècle, Mgr Castromayer, en 1953, a publié un catéchisme des vérités opportunes qui s'oppose aux erreurs contemporaines. Là encore, manifestant la vérité en opposition avec l'erreur. Et il donne un certain nombre de propositions, la proposition catholique et l'erreur moderne, pour bien mettre la vérité en face de l'erreur. Mgr Lefebvre et Mgr Castromayer, en 1983, on fait une lettre publique au pape pour lui faire la liste des principales erreurs du monde actuel et demandant au pape de les condamner. C'est la déclaration du 21 novembre 1983. On pourrait aussi citer l'anecdote de Mgr Lefebvre qui racontait cette anecdote dans une retraite, comment il avait été, lorsqu'il était en Afrique, chargé responsable de tous les diocèses d'Afrique pour le pape. Il allait régulièrement à Rome et une année, il avait fait un rapport demandant la condamnation de la Jamaa, qui est un mouvement charismatique diabolique qui s'est développé en Afrique noire. Et le cardinal Montini, qu'il avait reçu, lui a répondu « Vous voulez faire passer l'Église pour une marâtre, en voulant toujours condamner. » Nous avons donc bien là deux attitudes complètement opposées. L'attitude libérale, qui refuse la condamnation de l'erreur, et l'attitude catholique, qui manifeste la vérité en condamnant l'erreur. Alors, remercions bien le bon Dieu de nous avoir suscité en cette crise de l'Église, et bien Dom Pouty, pour, par son journal Sissi Nono, remplir ce rôle catholique. Nous allons tâcher de montrer au cours de cette conférence comment cette attitude est vraiment l'attitude catholique. Nous le ferons en donnant quelques citations de l'Écriture sainte, ensuite en donnant les explications de saint Thomas d'Aquin, et puis nous verrons quelques citations d'autres saints et de divers auteurs. Si nous regardons l'Écriture sainte, nous voyons d'abord deux principes qui sont souvent affirmés. Le premier, c'est que Dieu aime le bien et a en haine le mal. Il aime le bien qu'il est lui-même, il a en haine le mal qui s'oppose à lui-même. D'abord, le mal du péché et de l'erreur. Avec toi, le méchant ne saurait habiter, dit le livre de l'Ecclésiaste. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as en haine tous les artisans d'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Yahvé abhorre l'homme de sang et de fraude. Notre citation, le Seigneur a en haine toute abomination et ne doit pas être aimé de ceux qui le craignent. Et cette attitude de Dieu n'est pas seulement celle de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons ces mots dans l'Épître de saint Paul, « Detractores Deo Audibiles ». Les détracteurs sont en haine à Dieu. Le deuxième principe, c'est que le chrétien doit imiter cette attitude de Dieu et haïr à son tour le mal et l'erreur. « Quid illigitis dominum audite malum ». Vous qui aimez le Seigneur, ayez en haine le mal, haïssez le mal. Ne dois-je pas, Yahvé, haïr ceux qui te haïssent, avoir en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? Oui, je les ai en haine d'une haine complète. Perfecto odio odera milos. Ils sont pour moi des ennemis. Inimici factissunt mihi. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne siège pas avec les méchants. Ces deux principes, on trouve dans l'Écriture bien des applications. Tout d'abord, dans les psaumes, c'est les fameuses imprécations qui déplaisent aux esprits modernes et libéraux, au point qu'ils en ont supprimé des passages dans le bréviaire actuel. Ces imprécations, on peut donner différentes explications. La meilleure, à mon avis, est celle qui est donnée par Fillion dans son commentaire. Plusieurs des malédictions contenues dans les psaumes et en d'autres endroits de la Bible renferment la clé de ce petit problème. Par exemple, l'une d'elles est ainsi formulée. Dieu, détruis-les parce qu'ils se sont révoltés contre toi. Et une autre, Seigneur, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? En anathémisant leurs ennemis, les poètes de la Bible pensaient donc beaucoup plus à Dieu qu'à eux-mêmes. Ces ennemis injustes étaient en même temps des impies qui outrageaient ouvertement le Seigneur, ses commandements, ses institutions, et contre lesquels il était impossible de ne pas s'indigner pour peu qu'on fût attaché à Dieu et à ses intérêts. S'il était impossible aux Hébreux de ne pas s'indigner, il est tout aussi impossible aux chrétiens de ne pas s'indigner de certaines impiétés et de certains outrages ouverts contre le Seigneur, ses commandements et ses institutions, pour peu qu'on lui ait attaché. Un autre exemple, on pourrait trouver dans le Notre Père, tout simplement, enseigné par notre Seigneur. Il nous apprend d'abord, le Notre Père est construit entre deux mots, pater noster, le mot de père, qui est le premier mot, et malo, qui est le dernier mot. Nous nous trouvons ainsi entre deux réalités, Dieu qui est notre père et le démon, le malin. Et nous devons nous tourner vers le bien, vouloir le bien. Les quatre premières demandes nous font désirer le bien, et les trois dernières demandes nous font repousser le mal. Et voilà l'attitude du chrétien. Voyons maintenant quelques explications données par saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas nous explique les passages de l'Écriture qui nous parlent de la haine de Dieu pour le mal et les pécheurs. Voici ce qu'il dit. Dieu aime les pécheurs en tant qu'ils ont une certaine nature. En effet, de cette façon, ils ont l'être et ils ont cet être par lui. Mais en tant qu'ils sont pécheurs, ils ne sont pas. Ils défaillent par rapport à l'être. Et cela ne leur vient pas de Dieu. Donc, sous ce point de vue, Dieu les a en haine. Ailleurs, il dit, dans les détracteurs, Dieu est la faute, mais non pas la nature. Et il explique, le deuxième principe que nous avons dit, de la même façon, nous devons haïr le péché et le mal qui est dans notre frère, mais non pas la nature qui vient de Dieu. Dans les pécheurs, on peut considérer deux choses. La nature et la faute. Par leur nature, qu'ils tiennent de Dieu, ils sont capables de la béatitude, sur la communication de laquelle est fondée la charité. C'est pourquoi, selon leur nature, il faut les aimer de charité. Mais leur faute est contraire à Dieu. Elle est un obstacle à la béatitude. Aussi, selon leur faute qui les oppose à Dieu, ils méritent d'être haïs, quels qu'ils soient, fussent-ils pères, mères ou proches, comme on le voit en Saint-Luc. Notre Seigneur nous dit que nous devons haïr notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs. Car nous devons haïr les pécheurs en tant qu'ils sont tels et les aimer en tant qu'ils sont des hommes capables de la béatitude. C'est là véritablement les aimer de charité à cause de Dieu. Donc cette attitude de haine du péché et du pécheur sous son aspect de pécheur nous est dictée par la charité. D'ailleurs, saint Thomas dit ceci, « L'amour est dû à notre prochain selon ce qu'il a de Dieu, c'est-à-dire selon la nature et la grâce. Mais l'amour ne lui est pas dû selon ce qu'il a par lui-même et par le diable, à savoir le péché et le défaut de justice. Et ainsi, il est permis de haïr dans notre frère le péché et tout ce qui a rapport à un défaut de justice divine. Et le fait de haïr dans notre frère le péché et le défaut de bien, cela relève de l'amour du prochain. C'est pour la même raison que nous lui voulons du bien et que nous haïssons son mal. Ou encore, il ne nous est pas commandé de haïr nos proches parce qu'ils sont nos proches, mais seulement parce qu'ils nous empêchent d'être à Dieu. Car en cela, ils ne sont plus nos proches, mais nos ennemis, selon cette parole en saint Matthieu, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Cette correction du pécheur, cette haine contre le pécheur, saint Thomas, nous l'avons vu, dit qu'elle relève de la charité, elle peut relever aussi de la justice. Si on le corrige en tant que le péché et le mal du pécheur, c'est un acte de la charité fraternelle. C'est même un acte supérieur à l'acte de protéger son prochain d'un mal corporel. Mais si on le corrige parce que le péché nuit à autrui, non pas parce qu'il est le mal du pécheur, mais parce qu'il est le mal pour les autres, ceux à qui le pécheur peut faire du mal, surtout quand il nuit au bien commun, alors c'est un acte de la justice. Dans la même question, saint Thomas donc donnait cette solution-là. Il examine la question de savoir si on peut corriger son supérieur. Il ne convient pas, dit-il, d'exercer une coercition, un acte de la justice. Mais la correction fraternelle, qui est acte de charité, convient à condition d'avoir le mode dû. Il précise même que ce mode peut être public. C'est ainsi, il donne l'exemple de saint Paul qui résista publiquement à saint Pierre parce qu'il y avait un danger pour la foi. À l'objection de ceux qui disent qu'on ne doit pas se estimer supérieur au prélat, donc qu'on ne devrait pas chercher à les corriger. Il répond, on ne doit pas s'estimer meilleur simplicitaire que le prélat, mais on peut s'estimer meilleur quantum ad aliquid, car nul n'est exempt de défaut ici-bas. En conséquence de tout ce que nous venons d'exposer, saint Thomas explique les devoirs de ceux qui enseignent la vérité. Et ces consignes valent particulièrement pour une revue comme Sissi Nono. Je cite, « Les prédicateurs de la vérité ont une double tâche. » Exhorter dans la doctrine sacrée et vaincre celui qui la contredit. Exhortari in doctrina sacra et contradicentem devincere. Et cette victoire sur les adversaires de la doctrine sacrée se fait de deux manières. On vainc les hérétiques par la dispute et ceux qui nous persécutent par la patience. Il dit ailleurs que l'habitus de foi nous est utile non seulement pour adhérer à la vérité, mais aussi pour repousser et combattre les erreurs, et que l'on reconnaît principalement un hérétique au fait qu'il refuse de combattre l'erreur. Je cite, L'habitus de la foi nous est utile pour deux choses, pour croire ce qu'il faut croire et pour repousser ce qu'il ne faut pas croire. L'homme peut faire la première chose par sa seule estimation, sans l'aide de l'habitus infus, mais pas la seconde, à savoir être incliné à telle vérité plutôt qu'à telle autre. Cela ne peut venir que de l'habitus infus. C'est ce discernement qui fait que nous ne croyons pas à tout esprit. Et ce discernement n'étant pas dans l'hérétique, cela manifeste qu'il n'a plus l'habitus de la foi. S'il croit à certaines vérités à croire, cela vient de la raison humaine. S'il était incliné à cela par l'habitus de la foi, il repousserait ce qui est contraire à la foi. De même que tout habitus repousse ce qui est contraire à cet habitus. Saint Thomas nous a donc donné des explications théoriques. On peut voir aussi dans sa vie comment il a été un combattant de la foi, selon la consigne que le pape Honorius III avait donnée aux frères prêcheurs quand il a approuvé l'ordre. Il leur a demandé d'être « pugiles fidei et vera mundi lumina », des combattants de la foi et des vraies lumières du monde. Si on prend une œuvre comme la Somme théologique, on s'aperçoit que l'exposition des erreurs et leur réfutation prend autant de place, sinon davantage, que l'exposition de la vérité. Il y a 10 000 objections dans la Somme théologique, 10 000 erreurs. Il semble que pour saint Thomas, la description des erreurs et leur réfutation est comme un contraste, un contre-jour qui met mieux en lumière l'éclat de la vérité, selon l'application qu'on peut donner à cette strophe du Laudation qu'il a composée lui-même. « Umbram fungat veritas, noctem lux eliminat ». La vérité fait fuir l'ombre, la lumière élimine la nuit. D'habitude, dans ses écrits, saint Thomas reste paisible, mais il lui arrive aussi quelquefois d'élever la voix. Ainsi, dans sa dispute contre Sigère de Brabant, voici comment Chesterton, dans son livre sur saint Thomas, raconte l'événement. Le bœuf muet, cette fois-ci, se rua dans l'arène comme un taureau furieux. Lui, qui ne s'était encore jamais mis en colère contre ses contradicteurs, il éclatait contre ceux qui cherchaient à se servir de lui. Le style de sa prose en est transfiguré. C'est un autre ton de voix et presque un autre homme qui parle. Dans ce dernier combat, Thomas se bat à la hache. Il ne reste rien dans son langage de la patience presque impersonnelle qu'il a toujours apportée dans ses discussions si nombreuses. Citation de saint Thomas. Voilà notre réfutation de l'erreur. Elle n'est pas fondée sur des articles de foi, mais sur les arguments et les affirmations des philosophes eux-mêmes. S'il existe quelqu'un qui, s'enorgueillissant de sa prétendue sagesse, désire réfuter ce que nous avons écrit, qu'il ne le fasse pas en cachette, ni devant des enfants incapables de trancher en pareille matière. Qu'il réponde ouvertement s'il l'ose. Il me trouvera en face de lui, et non seulement ma négligeable personne, mais un grand nombre de ceux qui s'attachent à l'étude du vrai. Nous combattrons ses erreurs ou remédierons à son ignorance. Fin de citation de saint Thomas. Continue la citation de Chesterton. Le bœuf muet mugit cette fois comme aux abois, mais il est terrible et domine toute la meute qui l'entoure. Nous avons dit déjà pourquoi en cette seule affaire Thomas d'Aquin déchaîne le tonnerre et les foudres. C'est que ce qui est en cause, c'est le sens moral de son œuvre qui trahissent derrière lui ceux qui se servent de sa victoire sur les Augustiniens. De fait, c'est l'unique occasion où Thomas se montre passionné, si l'on accepte l'éclair de colère de sa jeunesse. Et cette fois encore, il brandit contre l'ennemi un tison enflammé. Il y a quand même d'autres endroits où saint Thomas a manifesté aussi un ton polémique, en particulier contre les ennemis de la vie religieuse, contre Guillaume de Saint-Amour. Je cite ici Don Félix Sarda et Salvani, dans son livre « Le libéralisme est un péché ». Le pacifique saint Thomas d'Aquin oublie le calme de ses froids syllogismes pour lancer contre son adversaire Guillaume de Saint-Amour et ses disciples les violentes apostrophes qui suivent. Ennemi de Dieu, ministre du diable, membre de l'Antéchrist, homme pervers. Jamais l'illustre Louis Veuillot n'en avait tant dit. Citons pour conclure, pour clore ce passage sur l'esprit polémique de saint Thomas, cette citation, tirée aussi d'un ouvrage par lequel il défendait la vie religieuse contre ses détracteurs. C'est par la résistance aux contradicteurs que la voie vers la vérité est le mieux ouverte et celle vers l'erreur le mieux fermée. Donnons maintenant quelques autres citations de saints qui confirment cette doctrine de saint Thomas. Tout d'abord, saint Jérôme, tel qu'il est décrit par Benoît XV dans l'encyclique Spiritus Paraclitus. Un zèle si ardent à sauvegarder l'intégrité de la foi le jetait en des polémiques très véhémentes contre les enfants rebelles de l'Église, qu'il considérait comme ses ennemis personnels. Il me suffira, dit saint Jérôme, de répondre que jamais je n'ai épargné les hérétiques et que j'ai mis tout mon zèle à faire des ennemis de l'Église mes ennemis personnels. Et dans une lettre à Ruffin, il écrit : Il est un point sur lequel je ne pourrais être d'accord avec toi, épargner les hérétiques, ne pas me montrer catholique. Citons maintenant saint Vincent de Paul, celui qui est connu pour sa douceur. Hélas, messieurs, que j'appréhende, il y a grand danger pour ces pauvres prédicateurs qui s'arrêtent à de belles conceptions, à l'agencement de leurs pensées et à l'usage des paroles triées à la mode, ne tenant pas tant de compte du plus profitable. Ah, que je crains pour ces gens-là! Et ce qui me donne plus de frayeur en cela, c'est la Sainte Écriture. Vous en savez toutes les paroles, je ne les sais pas, mais je sais le sens, et le voilà. Un prophète crie « Malheur à celui qui, étant en un lieu élevé, d'où il voit le loup ravissant entrer dans le bercail, à la vue de cet ennemi, ne crie pas de toutes ses forces « Sauvez-vous, sauvez-vous, voilà l'ennemi !» Malheur à celui-là, s'il ne crie pas tant qu'il peut « Sauvez-vous !» Et voilà justement ce que font ces prédicateurs qui ne regardent pas avant tout le profit de leur auditoire. Bien qu'ils voient l'ennemi, ils ne sonnent mot. Ils vous chantent des airs de plaisance, au lieu de crier avec la trompette « Nous allons nous perdre ». Voilà, voilà l'ennemi, sauvons-nous, sauvons-nous. Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, explique comment Dieu a fait une haine, une seule haine, mais qui est inextinguible, celle de la femme et de ses enfants contre Satan et ses enfants. Et c'est ce que nous rappelait hier la fête de l'Immaculée Conception. Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen ilius. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête et tu mettras des embûches à son talon. Jamais Dieu, commente saint Louis-Marie de Montfort, n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et suppôts de Lucifer. En sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa Sainte Mère. Il lui a même donné, dès le paradis terrestre, quoiqu'elle ne fût encore que dans son idée, tant de haine contre ce maudit ennemi de Dieu, tant d'industrie pour découvrir la malice de cet ancien serpent, tant de force pour vaincre, terrasser et écraser cet orgueilleux impie, qu'il l'appréhende plus non seulement que tous les anges et les hommes, mais en un sens que Dieu même. Ce n'est pas que la colère, la haine et la puissance de Dieu ne soient infiniment plus grandes que celles de la Sainte Vierge, puisque les perfections de Marie sont limitées. Mais c'est premièrement parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu. Et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Secondement, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés d'avouer, un seul de ses soupirs pour quelque âme que les prières de tous les saints, une seule de ses menaces contre eux que tous les autres tourments. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort continue en expliquant que l'Écriture n'a pas mis, Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés. Non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés. Non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et esclaves du diable. Ils ne s'aiment point mutuellement. Ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Voyons maintenant d'autres auteurs qui disent la même chose. Tout d'abord, Bossuet. Ne faut-il pas user de condescendance, se demande-t-il. N'est-ce pas une doctrine évangélique qu'il faut s'accommoder à l'infirmité humaine? Il le faut, n'en doutez pas, chrétien. Mais voici l'esprit véritable de la condescendance chrétienne. Elle doit être dans la charité et non pas dans la vérité. Je veux dire qu'il faut que la charité compatisse et non pas que la vérité se relâche. Il faut supporter l'infirmité, mais non pas l'excuser ni lui complaire. Il faut imiter saint Cyprien, dont saint Augustin a dit ces beaux mots, que considérant les pécheurs, il les tolérait dans l'Église par la patience et la charité. Et voilà pour la condescendance chrétienne. Mais que tout ensemble, il les reprenait par la force de la vérité. Et voilà la vigueur apostolique. Maintenant, le cardinal Pie. La tranquille exposition de nos dogmes est assurément en soi préférable à la discussion. Nos illustres devanciers l'ont souvent déclaré ainsi, et il serait par trop vulgaire de rassembler en un faisceau les passages de leurs écrits où ils expriment ce jugement. Toutefois, la nécessité des temps les précipita eux-mêmes le plus souvent dans la controverse. Quand on lit leurs ouvrages, on reconnaît que la polémique y figure pour la plus grande part. Gardons-nous de nous en plaindre. On a vu jaillir de ces chocs les plus brillantes étincelles de leur génie, les traits les plus lumineux de leur esprit. Je ne sais pas si la tradition catholique ne subirait pas un préjudice plus irréparable par la perte des livres apologétiques et des traités de controverse que par celle des catéchèses et des homélies pastorales. Il y a ceux qui opposent le devoir de charité à ce devoir de combattre l'erreur, il répond ceci. La charité implique avant tout l'amour de Dieu et de la vérité. Elle ne craint donc pas de tirer le glaive du fourreau pour l'intérêt de la cause divine, sachant que plus d'un ennemi ne peut être renversé ou guéri que par des coups hardis et des incisions salutaires. Et le père Faber a aussi une belle page sur le devoir que nous avons de haïr l'hérésie. Nous aimons les âmes à cause de Jésus et non Jésus à cause des âmes. Ainsi, il y a des temps et des lieux où nous passons de l'amour des âmes à la haine de l'hérésie. Ce dernier sentiment offense le monde d'une façon toute particulière. Il est tellement contraire à l'esprit du monde que même dans des cœurs croyants et bons, tout ce qui reste de mondanité se soulève en armes contre cette haine de l'hérésie. C'est un levain qui aigrit les caractères les plus doux et qui corrompt plus d'une œuvre glorieuse de la grâce. Main convertie, dans l'âme duquel Dieu aurait voulu faire de grandes choses, marche vers son tombeau comme un exemple d'avortement spirituel parce qu'il n'a pas voulu haïr l'hérésie. Le cœur qui balance dans sa haine de l'hérésie n'est pas encore converti. Dieu est encore loin d'y régner avec une souveraineté sans partage. Les routes d'une sainteté plus élevée sont fermées devant lui. Suivant le jugement du monde et celui des chrétiens mondains, cette haine de l'hérésie est exagération, aigreur, indiscrétion. Elle est immodérée, déraisonnable, exigeante, bigote, intolérante, étroite, stupide, immorale. On ne peut guère s'attacher à prouver au monde, à l'ennemi de Dieu, qu'une haine complète et catholique de l'hérésie est le fait d'un esprit droit. Nous pourrions aussi bien chercher à forcer un aveugle à juger d'une question de couleur. L'amour divin nous place dans un cercle différent de vie, de motifs, de principes, qui non seulement n'est pas celui du monde, mais qui est en inimitié directe avec lui. Et ce que dit ici le père Faber est très vrai, on ne trouvera jamais un saint qui n'a pas combattu le mal et l'erreur. C'est pourquoi une béatification comme celle de Escrivá de Balaguer est plus que douteuse, puisque ce personnage n'a rien dit contre le concile, contre la nouvelle messe. Citons maintenant Ernest Hélo, qui a souvent des formules très heureuses. Quiconque aime la vérité déteste l'erreur. Cette détestation de l'erreur est la pierre de touche à laquelle se reconnaît l'amour de la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous pouvez jusqu'à un certain point dire que vous l'aimez et même le faire croire. Mais soyez sûr qu'en ce cas, vous manquerez d'horreur pour ce qui est faux, et à ce signe, on reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. Quand un homme qui aimait la vérité cesse de l'aimer, il ne commence pas par déclarer sa défection. Il commence par moins détester l'erreur. C'est par là qu'il se trahit. Quand un homme perd l'amour de la doctrine, bonne ou mauvaise, qu'il professait, il garde ordinairement le symbole de cette doctrine. Seulement, il sent mourir en lui toute aversion pour les doctrines contraires à celle-là. Par cela même que la charité est la chose sublime, la réalité par excellence et la moelle des os de la créature, par cela même, l'abus de la charité et le mauvais usage de son nom doit être spécialement et singulièrement dangereux. Optimi corruptio pessima. Corruption du meilleur est ce qu'il y a de pire. Plus ce nom est beau, plus il est terrible, et s'il se retourne contre la vérité, armé de la puissance qu'il a reçue pour la vie, quel service ne rendra-t-il pas à la mort ? Or, on tourne le nom de la charité contre la lumière toutes les fois qu'au lieu d'écraser l'erreur, on pactise avec elle, sous prétexte de ménager les hommes. On tourne le nom de la charité contre la lumière toutes les fois qu'on se sert de lui pour faiblir dans l'exécration du mal. En général, l'homme aime affaiblir. La défaillance a quelque chose d'agréable pour la nature déchue. De plus, l'absence d'horreur pour l'erreur, pour le mal, pour l'enfer, pour le démon, cette absence semble devenir une excuse pour le mal qu'on porte en soi. Quand on déteste moins le mal en lui-même, on se prépare peut-être un moyen de s'excuser celui qu'on caresse dans son âme. Cette réflexion d'Ernest Hélo paraît très juste. L'homme aime affaiblir. Il me semble que c'est là une explication de beaucoup de défaillance. Et dans le libéralisme, il y a cette absence de courage et cette faiblesse qui fait qu'on accepte de renoncer au combat. Je continue de citer Ernest Hello. Il y a un mot dans David auquel on ne fait pas attention. Le voici. Qui diligitis dominum audite malum. Vous qui aimez le Seigneur, ayez en haine le mal. Le jour où le mal est entré dans le monde, il est né quelque chose d'irréconciliable. La charité, l'amour envers Dieu, exige, suppose, implique, ordonne la haine envers l'ennemi de Dieu. Et il donne l'exemple du roi de Juda, Josaphat, auquel le Seigneur lui reprocha d'avoir fait une alliance avec Israël, avec le roi d'Israël, le roi du Nord. Ce grand Josaphat reçut un reproche du Seigneur, car il avait fait alliance avec le roi d'Israël. Faire alliance avec l'ennemi, ceci est le crime secret, le crime profond. La mesure de l'amour est dans l'exécration qu'on a pour la chose ennemie de l'ami. Le roi d'Israël était l'ennemi de Dieu. Josaphat avait oublié la chose que Dieu exécrait. Encore une réflexion d'Ernest Hello, qui est peut-être actuelle si on se sent un peu fatigué par la lutte. Après une longue guerre, quand on n'en peut plus, quand la fatigue amène la ressemblance de l'apaisement, on a souvent vu les rois, lassés de combattre, se céder les uns aux autres telle ou telle place forte. Ce sont là des concessions qui fournissent les moyens d'en finir avec le canon. Mais on ne traite pas les vérités comme on traite les places fortes. Quand il s'agit de faire la paix en esprit et en vérité, c'est la conversion qu'il faut et non l'accommodement. La justice est tout entière ce qu'elle est. Encore cette comparaison qui est facile entre le médecin qui soigne et celui qui doit combattre l'erreur. Que dirait-on du médecin qui, par charité, ménagerait la maladie de son client ? Imaginez ce tendre personnage. Il dirait au malade : après tout, mon ami, il faut être charitable. Le cancer qui vous ronge est peut-être de bonne foi. Voyons, soyons gentils. Faites avec lui une bonne petite amitié. Il ne faut pas être intraitable. Faites la part de son caractère. Dans ce cancer, il y a peut-être une bête. Elle se nourrit de votre chair et de votre sang. Auriez-vous le courage de lui refuser ce qu'il lui faut ? La pauvre bête mourrait de faim. D'ailleurs, je suis porté à croire que le cancer est de bonne foi et je remplis auprès de vous une mission de charité. C'est le crime du 19e siècle que de ne pas haïr le mal, disait Ernest Hello, que dirait-il aujourd'hui, et de lui faire des propositions. Il n'y a qu'une proposition à lui faire, c'est de disparaître. Tout arrangement conclu avec lui ressemble non pas même à son triomphe partiel, mais à son triomphe complet, car le mal ne demande pas toujours à chasser le bien. Il demande la permission de cohabiter avec lui. Un instinct secret l'avertit qu'en demandant quelque chose, il demande tout. Dès qu'on ne le hait plus, il se sent adoré. Citons maintenant l'abbé Berthaud, qui était le théologien de Mgr Lefebvre pendant le Concile. Je viens à ce qui vous a surtout déplu dans mon article, la rudesse du ton, selon vous peu charitable. Sur ce point, je ne vous concède rien. Si la charité est ce que vous dites, il faut déchirer des pages entières de l'Évangile, depuis la paille et la poutre des hypocrites, jusqu'à la clé de la science que les duchesses Cecchi et Stulti gardent dans leur poche, les conducteurs d'aveugles et les sots. Pour finir par Serpentes genimina viperarum, serpent, engeance des vipères. Ou bien avez-vous deux poids et deux mesures? Était-ce charité à saint Jérôme de traiter saint Augustin de citrouillard, cucurbitarius, et Ruffin d'âne à deux pattes, asinus bipes? Tandis que ce serait manquer de charité à moi d'égayer mes lecteurs en évoquant le bipède sans plume de Platon. Expression qu'il faut bien que je m'applique comme à mes adversaires, puisque je suis homme comme eux. Au lieu que saint Jérôme ne s'appliquait sûrement pas l'asinus bipes qu'il décochait à Ruffin. À moins que vous ne préfériez dire que saint Jérôme aussi manquait de charité. Mais vous le diriez contre toute l'Église et contre l'évidence. Car et l'Église et l'évidence proclament que ce volcan d'invective flambait de charité. Lui et non pas moi, hélas, c'est trop vrai, mais pour le dire, il faut scruter mes intentions, ce qui n'est pas évangélique non plus, et aller au-delà de mon comportement littéraire, puisque mes expressions ne sont pas plus fortes que sépulcre blanchi qui est dans l'Évangile et que défécateur en chambre qui est dans la lettre à Eustochium. Vous vous scandalisez de rencontrer de l'invective dans une publication qui s'intitule « Catholique ». C'est tout simplement que l'invective est catholique, à preuve l'Évangile, à preuve non seulement les 11 volumes de saint Jérôme dans Migne, mais 100 autres tomes de la patrologie. Elle n'est donc pas d'elle-même et dans tous les cas contraire à la charité. La charité transcende et l'invective et la douceur des paroles. Elle impère l'une ou l'autre suivant les circonstances. Vraiment, l'Évangile ne parle que de charité, à merveille, et j'en demeure d'accord. Pourtant, il contient des invectives, et donc les invectives ne sont pas de soi contraires à la charité de l'Évangile. Et quant à une charité qui ne serait pas celle de l'Évangile, je me moque bien d'en manquer. Citons Louis Veuillot. Le libéralisme est une maladie qui se manifeste par une absence d'horreur pour l'hérésie, par une perpétuelle complaisance envers l'erreur, par un certain goût des pièges qu'elle tend, et souvent par un certain empressement à s'y laisser prendre. Il y aurait encore à citer, nous n'aurons pas le temps, je vais juste lire quelques petits extraits, dont Félix Sarda et Salvani, dans son beau livre « Libéralisme est un péché », et spécialement les chapitres 22, 23 et 27. Les libéraux accusent généralement les catholiques de mettre peu de charité dans les formes de leur propagande. Voici ce qu'il répond. Catholiques, nous avons raison en ce point comme en tous les autres, tandis que les libéraux n'en ont pas seulement l'ombre. Voici quelques raisons qu'ils donnent. Nous, catholiques d'aujourd'hui, nous n'innovons rien à cet égard. Nous nous en tenons à la pratique constante de l'Antiquité. Les propagateurs et les fauteurs d'hérésie ont de tout temps été appelés hérétiques comme leurs auteurs. Et comme l'hérésie a toujours été considérée dans l'Église comme un mal des plus graves, l'Église a toujours appelé mauvais et méchants ses fauteurs et ses propagateurs. Parcourez la collection des auteurs ecclésiastiques. Vous y verrez comment les apôtres ont traité les premiers hérésiarques, comment les saints-pères, les controversistes modernes et l'Église elle-même, dans son langage officiel, les ont imités. Il n'y a donc aucune faute contre la charité à nommer le mal mal, méchant les auteurs. Iniquité, scélératest, perversité, l'ensemble de leurs actes, paroles et écrits. Le loup a toujours été appelé loup tout court, et jamais, en l'appelant ainsi, on a cru faire tort au troupeau et à son maître. Si la propagande du bien et la nécessité d'attaquer le mal exigent l'emploi de termes un peu durs contre les erreurs et ses coryphées reconnus, cet emploi n'a rien de contraire à la charité. C'est là un corollaire ou une conséquence du principe ci-dessus démontré. Il faut rendre le mal détestable et odieux. Or, on n'obtient pas ce résultat sans montrer les dangers du mal, sans dire combien il est pervers, haïssable et méprisable. L'art oratoire chrétien de tous les siècles autorise l'emploi des figures de rhétorique les plus violentes contre l'impiété. Dans les écrits des grands athlètes du christianisme, l'usage de l'ironie, de l'imprécation, de l'exécration, des épithètes écrasantes et continuelles. Il donne ensuite plusieurs exemples de l'attitude. Nous avons déjà donné l'exemple de saint Jérôme, de saint Thomas d'Aquin. Citons saint Bernard, et aussi le doux saint Bernard. Le doux saint Bernard n'était certainement pas de miel lorsqu'il s'agissait des ennemis de la foi. S'adressant à Arnaud de Brescia, le grand agitateur libéral de son temps, il le nomme en toutes lettres séducteur, vase d'injures, scorpion, loup cruel. Saint François de Sales, que sa délicatesse exquise et son admirable mansuétude ont fait appeler la vivante image du Sauveur. Croyez-vous qu'il eut des égards pour les hérétiques de son époque et de son pays ? Allons donc. Il leur pardonna leurs injures, il les combla de bienfaits, alla jusqu'à sauver la vie de ceux qui avaient attenté à la sienne, jusqu'à dire à un de ses adversaires : si vous m'arrachiez un œil, je ne laisserai pas avec l'autre de vous regarder comme un frère. Mais avec les ennemis de la foi, il ne gardait aucun tempérament, aucune considération. Interrogé par un catholique désireux de savoir s'il était permis de mal parler d'un hérétique qui répandait de mauvaises doctrines, il répondit : oui, vous le pouvez, à la condition de vous en tenir à l'exacte vérité, à ce que vous savez de sa mauvaise conduite, présentant ce qui est douteux comme douteux, et selon le degré plus ou moins grand du doute que vous aurez à cet égard. Dans son introduction à la vie dévote, livre si précieux et si populaire, il s'exprime plus clairement encore. Les ennemis déclarés de Dieu et de l'Église, dit-il à Philothée, doivent être blâmés et censurés avec toute la force possible. La charité oblige à crier au loup quand un loup s'est glissé au milieu du troupeau, et même en quelques lieux qu'on le rencontre. En conclusion, nous pouvons peut-être faire une petite application de ce que nous avons dit à la situation actuelle dans l'Église. À la racine du libéralisme, il y a un manque de courage pour condamner l'erreur. Et le libéralisme est entré officiellement dans l'Église le jour où on a adopté le droit à la liberté religieuse. Il s'agit sans doute là de l'erreur fondamentale du Concile, de l'erreur la plus grave. Si on admet la liberté religieuse, il est clair qu'on doit s'adapter à la situation de pluralisme religieux et tâcher de vivre en bonne entente avec les autres religions. Ce sera le rôle de l'œcuménisme. De même, si on admet la liberté religieuse, il faut adopter une forme de gouvernement qui favorise la liberté. Ce sera le rôle de la collégialité, qui n'est autre chose qu'à l'introduction de la démocratie dans l'Église. On sait que les ennemis de la religion ont bien compris depuis plus de deux siècles que l'instauration de la liberté religieuse était le moyen le plus efficace pour la destruction de la foi catholique. Ils l'ont imposé lors de la Révolution dite française. Les diverses tentatives de restauration n'ont pas osé remettre en cause cette liberté. On sait aussi que la franc-maçonnerie a fait pression sur l'Église pour qu'elle adopte cette doctrine de la liberté religieuse au Concile. Mgr Lefebvre cite l'exemple du cardinal Béa et ses rencontres avec les Naïbrites avant le Concile. Cardinal Béa, qui a été décoré de l'ordre de la liberté religieuse par le Bnaï Brith après le Concile. Nous avons cité tout à l'heure ce document du Grand Orient de France qui avait repéré au Concile cet évêque de Cracovie qui demandait le droit de chercher et d'errer. Nous ne ferons pas ici une discussion de cette doctrine. Il y a bien des livres qui ont été écrits, des articles pour expliquer comment toutes les tentatives pour essayer de défendre cette déclaration conciliaire ne sont pas il n'y a pas de défense possible. La liberté religieuse est contraire à toute la tradition de l'Église. L'Église a toujours combattu ou cherché, loin de quand c'était possible, à combattre les fausses religions et demander aux princes, aux chefs d'État, d'utiliser leur force pour combattre les erreurs religieuses, en faisant les distinctions qu'on nous a rappelées tout à l'heure entre les hérétiques, les gens qui ne sont dans d'autres qui sont qui ne sont pas catholiques. C'est pas la guerre sainte. L'Église n'a jamais prêché la guerre sainte, mais elle a toujours utilisé la force pour la défense de la vérité. Saint Thomas d'Aquin, dans sa question 8 de la Tertia Pars, se demande si le démon est la tête des méchants. Est-ce qu'il y a puisqu'il y a une Église avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, y aurait-il une contre-Église avec le démon comme tête de cette contre-Église? Il répond par l'affirmative. Il précise que le démon gouverne les hommes en les attirant à lui par l'aspect de la liberté, sous le prétexte de la liberté. Voici le commentaire que donne le père Pègue de cet article. N'est-ce pas au cri de « Vive la liberté » qu'on a vu se perpétrer tous les attentats et tous les crimes contre Dieu, contre l'Église, contre toute autorité légitime voulant commander en leur nom? Comme il serait bon de livrer cette doctrine de saint Thomas à la méditation de tant d'esprits ingénus qui se persuadent qu'il n'y a rien de louable, qu'il n'y a rien que de louable et d'excellent dans ce cri devenu le cri de révolte du grand ennemi de Dieu et des hommes. C'est en le jetant aux foules qu'il les rallie dans tout l'univers sous l'étendard de sa rébellion. Dans la mesure même où les hommes obéissent à ce cri, ils tombent, nous dit saint Thomas d'Aquin, sous l'empire et le gouvernement du démon. La liberté, et en particulier la liberté religieuse, c'est donc l'étendard du démon. C'est l'abomination de la désolation dans la maison de Dieu. Devant cet étendard planté au sein de l'Église, nous devons réagir en plantant l'étendard de notre Seigneur. Sous l'étendard de notre Seigneur, il y a marqué « vérité »,« veritas liberabit vos ». Aimons la vérité, car elle nous rendra libres de la vraie liberté des enfants de Dieu. Et haïssons l'erreur, car c'est à notre haine de l'erreur que notre Seigneur mesurera notre amour de la vérité. Et prions la douce Vierge Marie de nous maintenir dans cet esprit de combat pour la vérité. Selon cette prière, qui est tirée d'un livre dominicain, « Ô resplendissante porte de lumière, défendez-nous des ennemis de l'esprit, libérez-nous de l'ombre de l'erreur et dirigez-nous par votre lumière aux joies de la vérité. Qu'ainsi, militant sous sa direction, nous hâtions le triomphe de son cœur immaculé, que nous puissions chanter devant la victoire complète sur le modernisme et toutes les hérésies contemporaines. Réjouissez-vous, Vierge Marie, à vous seule, vous avez vaincu toutes les hérésies dans le monde entier. Gaude Virgo Maria, cunctas hereses sola interemisti in universo mondo. Merci.